Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Nous voyons aujourd'hui le nombre de malades Covid en réanimation remonter de façon préoccupante. C'est un témoin important de l'évolution de l'épidémie.
Et pour faire face, de nouvelles restrictions sont attendues à Lyon et Nice d'ici samedi. Inquiétude en particulier dans la région PACA.
Le groupe État islamique revendique ce soir l'assassinat des 6 humanitaires français au Niger. C'était le 9 août dernier.
Les vins d'Alsace sanctionnés pour entente sur le prix du raisin. Ils écopent au total de 375 000 euros d'amende.
Un nouveau scandale aux États-Unis. Donald Trump à nouveau accusé d'agression sexuelle. Une ancienne mannequin dit qu'il l'a embrassée sans son consentement. C'était à l'US Open en 97.
Et puis c'est ce soir le grand retour du Stade de Reims en Coupe d'Europe de football. 57 ans d'attente pour les Rémois.
La tendance météo avec vous, Anissa, du beau temps et des orages au programme demain.
Voilà, c'est bien résumé effectivement pour demain. Du beau temps sur l'ensemble du pays. Mais attention, le temps commence à se dégrader avec des orages dans le sud-ouest. Je vous détaille tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'était une attaque d'une extrême violence en plein mois d'août. 6 humanitaires français assassinés au Niger avec leur guide et leur chauffeur. Ils étaient partis pour une journée de repos, visiter une réserve animale. Ce soir, le groupe État islamique revendique cette attaque avec la même violence, Johanna Chabas.
Oui, Daesh revendique cette attaque. Photo des victimes à la pluie. Les jeunes humanitaires apparaissent à genoux, visage couvert de sang pour certains. Les images semblent extraites d'une vidéo tournée quelques secondes avant l'exécution. C'est en tout cas comme ça que le groupe terroriste le présente. Le texte de revendication est publié dans son hebdomadaire de propagande. L'État islamique parle d'une attaque éclair. Au début du mois, 8 volontaires de l'ONG Acted sont au Niger, près d'une réserve de girafes. Les assaillants arrivent en moto pour les tuer. Ils étaient, selon les premiers éléments de l'enquête, préparés et attendaient le groupe d'humanitaires. Parmi les victimes, 6 jeunes français âgés de 25 à 30 ans. De nombreux groupes terroristes circulent dans la région. C'était donc jusqu'à présent difficile d'identifier les responsables de l'attaque. Dernière précision, dans son texte de revendication, l'État islamique ne parle jamais d'humanitaire, seulement des citoyens croisés de la France.
Merci Johanna Chabas.
La situation épidémique reste préoccupante en France. Confirmation donc ce soir du ministre de la Santé qui a tenu un point presse, Olivier Véran, qui s'inquiète de certaines situations locales, comme en Guadeloupe et à Bordeaux notamment.
Marseille également, il a d'ailleurs pris l'exemple de la région PACA pour montrer que l'épidémie avait des conséquences très concrètes.
Prenons l'exemple de la région PACA. Nous disposons aujourd'hui de 537 lits de réanimation et parmi eux, 139 patients Covid sont déjà hospitalisés en réa, c'est-à-dire près de 30%, alors que le pourcentage de malades Covid dans les réa à l'échelle du pays est de 15%. Fin septembre, à l'échelle de la région PACA, il y aurait 300 patients atteints du coronavirus en réanimation, soit 60% des lits de réa actuellement installés. À la deuxième quinzaine du mois d'octobre, si nous ne prenons pas des mesures rapidement, nous atteindrons notre capacité totale de lits actuellement installés.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran. D'autres villes inquiètent. Victor Delande, vous nous avez rejoint, notamment Lyon et Nice.
Oui, Olivier Véran a demandé aux autorités locales de lui proposer des mesures concrètes d'ici samedi pour endiguer l'épidémie de coronavirus, car le taux d'incidence dans ces deux villes est en évolution constante. Le ministre de la Santé était également très attendu sur la stratégie des tests. Vous le savez, les laboratoires d'analyse médicale sont débordés depuis plusieurs semaines et les résultats se font attendre. Olivier Véran a annoncé le déploiement de nouveaux centres de dépistage dans plusieurs grandes villes. Dans ces centres, des créneaux horaires seront réservés aux patients prioritaires. De 8h à 14h, les personnes qui ont des symptômes, les cas contacts ainsi que le personnel médical seront reçus en priorité pour être testés. Il a également commandé 5 millions de tests antigéniques, même technique nasopharyngée, mais des résultats beaucoup plus rapides, en 30 minutes. Enfin, la Haute Autorité de Santé doit rendre rapidement une décision sur les tests salivaires pour déterminer quels publics pourront être testés avec cette nouvelle technique. Autant de mesures qui devraient désengorger les laboratoires en ville.
Et le ministre Victor a tenu à faire le point sur les écoles. La situation ne nécessite pas, dit-il, de renvoyer les élèves chez eux trop vite.
Oui, les enfants jeunes sont peu à risque de formes graves et peu actifs dans la chaîne de transmission du coronavirus, a rappelé le ministre en s'appuyant sur une nouvelle étude. Il souhaite donc assouplir encore davantage le protocole sanitaire dans les écoles et, pour être encore plus concret, arrêter d'enlever un enfant de l'école au premier rhume. Et pour limiter au maximum les contaminations d'adultes à enfants, le personnel dans les crèches devra désormais porter un masque. C'est une obligation.
Merci Victor Delande pour ces précisions. Et alors que les critiques se multiplient depuis quelques jours, on en parle régulièrement, une association de victimes du Covid a annoncé aujourd'hui qu'elle allait porter plainte contre le Premier ministre Jean Castex. Elle reproche au Premier ministre des ratés dans la lutte contre l'épidémie.
Ce type de plainte n'est pas une première. À la Cour de justice de la République, on a reçu près de 90 depuis le début de la crise. 9 ont été jugés recevables et ont donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire pour abstention de combattre un sinistre. Des plaintes qui visent notamment le ministre de la Santé, Olivier Véran, sa prédécesseur Agnès Buzyn et l'ex-premier ministre Édouard Philippe.
La rentrée sociale des syndicats, le mouvement de grève a été peu suivi aujourd'hui. Des défilés ont eu lieu partout en France, à Paris, Nantes, Marseille, Rennes ou encore Bordeaux, à l'appel de la CGT, Solidaire et la FSU. Des mobilisations également peu suivies.
Il vous est peut-être déjà arrivé de trouver un vin d'Alsace un peu cher.
C'est bien, soit il était juste excellent, soit il était peut-être le résultat d'une fraude des producteurs de vin d'Alsace.
Et oui, l'autorité de la concurrence vient en effet de sanctionner les principales organisations professionnelles qui se seraient entendues pour vendre le raisin plus cher.
Tout ça, Arthur Mbaché, sur le dos des consommateurs.
Et pendant des années, au moins depuis 2008 pour le prix du raisin, 1980 pour le vin en vrac. Voilà donc le cartel du Riesling ou du Gewürztraminer. Tous les cépages du coin sont concernés. Dans la décision de ce jeudi, vous avez des extraits de réunions de viticulteurs. Par exemple, 28 août 2012, c'est pas admissible de trouver des vins d'Alsace à 2 ou 3 euros. Faut qu'on arrête de se prendre les marchés entre nous. Ou bien la meilleure communication, les meilleurs produits, ça suffit pas si on se fixe pas comme objectif de demander un prix correct. En clair, entendons-nous entre concurrents sur les prix. Commentaire de l'autorité de la concurrence, ça relève des pratiques les plus graves en droit national et européen. Donc, des amendes jusqu'à 350 000 euros pour le CIVA, le comité interprofessionnel des vins d'Alsace. J'ai parlé ce soir à plusieurs de ses dirigeants ou anciens dirigeants. Ils dénoncent une sanction inacceptable, sévère, abusive. Premier argument, on n'est pas un marché comme les autres, disent-ils, on ne vend pas des lave-vaisselle. Deuxièmement, depuis 40 ans, on a un représentant de l'administration à toutes nos réunions. Il ne nous a jamais demandé de cesser ces pratiques, qui n'étaient pas du tout secrètes. D'ailleurs, les viticulteurs ont la possibilité de faire un recours devant la Cour d'appel de Paris.
Merci Arthur Mbaché.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h08, c'est la suite de votre journal avec Carole Ferry. Et on part aux États-Unis où Donald Trump est à nouveau accusé d'agression sexuelle à 47 jours de l'élection présidentielle américaine.
Oui, cette fois, c'est une ancienne mannequin qui met en cause le président des États-Unis. Elle lui reproche de l'avoir embrassé et touché sans son consentement, Xavier Yvon.
Oui, c'est un témoignage qui ressemble fortement à ceux des autres femmes qui ont déjà accusé Donald Trump d'agression sexuelle. Amy Doris est la 26e à le faire publiquement. Cette ancienne mannequin s'est confiée au journal britannique The Guardian. Selon elle, ça s'est passé en 1997, elle avait alors 24 ans. C'était à New York, elle assistait à l'US Open de tennis avec Donald Trump et des amis quand il l'aurait coincée dans les toilettes de sa loge.
Then he just grabbed me.
Il m'a attrapé, il a fourré sa langue dans ma bouche et quand je l'ai repoussé, il m'a serré plus fort. Ses mains étaient partout, sur mes fesses, sur mes seins, c'était comme une pieuvre. Vous savez, avec ses tentacules et ses ventouses qui ne vous lâchent pas, je me suis sentie prise au piège.
Encore aujourd'hui, Amy Doris dit se sentir très mal. Les avocats de Donald Trump démentent ces accusations et ils soulignent leur timing pile à quelques semaines de l'élection présidentielle. Amy Doris ne s'en cache pas. « Je veux que les gens sachent quel genre d'homme est notre président », dit-elle. Les autres accusations contre Donald Trump n'ont jusqu'à présent jamais eu aucune conséquence ni judiciaire ni politique. Souvenez-vous, la fameuse vidéo où le milliardaire se vantait de pouvoir attraper les femmes par leur sexe juste parce qu'il était célèbre, elle avait été révélée quelques semaines seulement avant le vote en 2016. Et ça ne l'avait pas empêché d'être élu président.
Merci Xavier Yvon, vous étiez en direct avec nous depuis New York.
Les sports avec le football, un match très attendu ce soir et qui promet une immense émotion au deuxième tour de Ligue Europa.
Et oui, c'est le grand retour du Stade de Reims en Coupe d'Europe. Reims qui joue face aux Servettes de Genève. Où vous vous retrouvez, Cyril de la Morinerie? Bonsoir.
Bonsoir.
Cela fait 57 ans, Cyril, que Reims attend de rejouer en Coupe d'Europe.
C'est ça, c'est en 1963 que le Grand Reims, comme on l'appelait à l'époque, dispute son dernier match de Coupe d'Europe, éliminé par le Feyenoord Rotterdam. Malgré la présence de Raymond Kopa, l'entraîneur Albert Batteux est sur le point de partir. C'est la fin d'une incroyable épopée qui a vu les Champenois remporter 6 titres de champion de France, 2 Coupes de France et disputer 2 finales de Coupe d'Europe des clubs champions face au Real Madrid. Cette histoire, Arnaud, qui habite Genève, la connaît très bien. C'est un grand supporter du stade de Reims et même si le match est à huis clos ce soir, il s'est rendu au stade de Genève car il ne pouvait pas manquer ça.
Ça représente énormément pour nous. C'est une passion familiale qui date de mon grand-père, de mon papa surtout, qui a suivi le stade de Reims dans toutes ses gloires. C'est un moment émouvant, 57 ans que la ville attend ça. Évidemment, on n'est pas encore complètement certain de la gagner, mais on est très content d'y participer.
L'émotion est d'autant plus grande que le club, après Delio Onis et Carlos Bianchi dans les années 70, a fini par déposer le bilan en 1991. En l'espace de 30 ans, Reims remonte un à un les échelons. D'abord avec un jeune entrepreneur, Christophe Chenu, puis sous la présidence de Jean-Pierre Caillot. C'est un retour en Ligue 1, un titre de Ligue 2 validé grâce à un but de Gretjon Kay. Ce soir, le buteur rémois sera de l'autre côté avec le maillot du Servette, quatrième du dernier championnat suisse. Les Rémois, qui ont la meilleure défense du championnat, c'était l'an dernier. L'antithèse du jeu offensif pratiqué par les pionniers partiront malgré tout favoris et optimistes, car comme le chante Arnaud...
Stade de Reims a connu la gloire, Stade de Reims la retrouvera.
Et le coup d'envoi, merci Cyril de la Morinerie, le coup d'envoi c'est donc à 20h45.
Il va en falloir un peu plus pour gagner ce soir les amis quand même. Hein. Merci Carole Ferry, c'était le journal de Carole Ferry. La météo avec vous Anissa, vous nous avez rejoint, dernière journée de ciel bleu, voilà, je ne sais pas quoi vous dire, c'est assez... Ça, c'est désespérant.
Si, alors, ce qu'on peut dire, c'est si vous le pouvez, profitez-en demain.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est la
profitez
dernière.
De l'instant présent.
Samedi, le temps va effectivement se dégrader, mais demain, il va faire beau sur presque tout le pays. C'est par le sud-ouest que les nuages arrivent, avec des averses demain matin sur les Pyrénées et le Pays Basque. Et puis, dans l'après-midi, toujours sur les Pyrénées, le Pays Basque et sur la façade atlantique, eh bien là, les orages se déclenchent, orages parfois violents, avec du vent et de la grêle, donc prudence dans le sud-ouest demain. Ailleurs, il fait très beau, c'est encore une journée estivale, la dernière effectivement, 10 à 21 degrés du nord au sud demain matin, et 23 à 30 degrés sur la moitié nord, c'est beaucoup plus respirable, et il fait toujours très chaud sur la moitié sud, avec 29 à 35 degrés maximal prévu pour le sud-ouest sous les orages.
Super, merci Anissa.